RCF.
Le temps de le dire sur RCF.
Bonjour à tous, c'est le temps de le dire. Nous sommes le 17 octobre et aujourd'hui, c'est la 30e journée mondiale du refus de la misère. C'est aussi cette année que l'on célèbre le centenaire de la naissance du père Joseph Wresinski, le fondateur d'Ateguet Quart-Monde, le mouvement à l'origine de cette journée de mobilisation. À 18h ce soir, une grande cérémonie sera organisée au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme. Les participants rediront que la misère est une violation des droits humains les plus essentiels et qu'il appartient à chacun de s'engager pour faire reculer cette grande pauvreté. C'est le temps de le dire et ce matin, justement dans cette émission, il sera question d'engagement. Comment aujourd'hui, en 2017, refuser la misère et comment se mobiliser tous pour que plus personne ne soit privé de l'essentiel. Un toit, un travail, de quoi vivre dignement, mais aussi de quoi faire entendre sa voix dans le concert d'une société pas forcément ouverte aux plus pauvres. Alors c'est le temps de le dire, aujourd'hui on réfléchit à notre engagement contre la misère, comment agir, comment surmonter les échecs, les difficultés et comment fonder cet engagement pour construire un monde de paix où chacun ait sa place. Comme tous les jours, vous avez la parole, en précarité ou pas, vous êtes les bienvenus dans cette émission pour nous dire de quelle façon vous luttez. Le téléphone, vous le connaissez, 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 et le mail letempsdeledire@rcf.fr.
Le temps de le dire, présenté par Stéphanie Gallet.
Et le temps que tous mes invités prennent place autour de cette table, je vous propose d'écouter un ami d'Ateguet Quart-Monde qui sera en concert avec d'autres artistes ce soir à l'Olympia pour un grand concert anniversaire d'Ateguet Quart-Monde. Il s'agit de Laurent Voulzy.
Les gens malheureux
Spirit of Samba, un extrait du dernier album de Laurent Voulzy, un album aux couleurs du Brésil. Alors pourquoi Laurent Voulzy aujourd'hui? Parce qu'on est le 17 octobre. Et Laurent Voulzy, c'est un ami de longue date du mouvement ATD Quart Monde et il sera ce soir en concert à l'Olympia avec un certain nombre d'autres artistes, si vous avez la chance, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de place. Alors mes invités ce matin pour ce 17 octobre, ils sont enfin tous arrivés. Je vais commencer par vous, Paul Maréchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes volontaire permanent à ATD Quart Monde. Ça fait 18 ans que vous êtes volontaire à ATD. Vous nous expliquez ce que c'est qu'un volontaire permanent chez ATD?
Voilà, donc on est 400 d'à peu près 40 pays différents. Et on a fait tous un choix très simple et qui est le même, c'est de se rendre disponible à temps plein pour ATD Quart Monde. Donc c'est l'engagement de notre vie ou d'une partie de notre vie, d'un certain nombre d'années en tout cas. Et on fait un choix de disponibilité pour les missions où il y a besoin de nous, prioritairement dans des lieux de grande pauvreté, où on agit et où on est présent aux côtés de familles qui ont une vie très dure, mais aussi pour d'autres missions de support, de soutien. C'est le premier choix, cette disponibilité, et un deuxième qui a une vie simple. Donc on vit à peu près dans tous les pays où on est avec le salaire minimum du pays ou avec le revenu bas du pays. Et puis bien sûr, on fait aussi un choix d'être, de se laisser transformer par ce qu'on découvre de l'extrême pauvreté, de travailler en équipe et de se laisser transformer pour agir aux côtés des plus pauvres chaque jour.
Eh ben merci beaucoup Paul Maréchal d'être avec nous ce matin. Évelyne Dubois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une militante d'ATD Quart Monde. Alors on vient de découvrir chez ATD il y a des volontaires, mais il y a aussi des militants. Ce sont des personnes qui, comme vous, ont connu la précarité, vous nous raconterez ça tout à l'heure, mais ont décidé aussi de s'engager, d'être acteurs de la lutte contre la précarité. Et aujourd'hui, vous faites partie des gens qui accompagnaient d'autres personnes en précarité.
Tout à fait.
C'est ça? J'ai bien dit? J'ai pas dit bêtises?
Vous l'avez bien dit.
Bon, vous avez traversé toute la banlieue pour venir jusqu'à nous. Quand on habite au fin fond de la Creuse, on sait pas forcément ce que ça veut dire. Mais moi, je peux vous garantir, c'est un périple éprouvant. Donc merci d'être avec nous ce matin. Vous nous raconterez une partie de votre histoire. Et puis surtout après, vous nous direz, puisque chez ATD et sur RCF aussi, on pense que les personnes qui ont connu la précarité ou qui sont encore en précarité sont peut-être les premières à même de nous dire comment il faut faire pour aider ces personnes-là. Merci beaucoup d'être avec nous, Évelyne Dubois. Et puis aujourd'hui, 17 octobre, il nous paraissait intéressant de faire dialoguer des gens issus du mouvement d'ATD Quart Monde, comme Paul Maréchal et Évelyne Dubois, avec d'autres qui réfléchissent à la nature de l'engagement. J'ai donc demandé à Pierre-Louis Choquet et Jean-Victor Elie de venir. Ils viennent de signer avec Anne Guillard, un livre aux éditions de l'Atelier qui s'appelle « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien ». Il se présente donc comme la relève des chrétiens engagés. Pierre-Louis Choquet, vous êtes doctorant en géographie à l'université d'Oxford. Jean-Victor Elie, vous êtes étudiant en master d'histoire des religions à l'école pratique des hautes études. Ce livre vient de sortir. Rapidement, vous nous expliquez ce que vous avez voulu faire. Qu'est-ce qui s'exprime? Allez, Pierre-Louis Choquet.
Alors en fait, en écrivant ce livre, on voulait, avec Anne et Jean-Victor, proposer une nouvelle façon de, pour les chrétiens, de prendre part au débat qui parcourt notre société, les débats politiques notamment, parce qu'on estimait que certains thèmes manquaient aujourd'hui radicalement de visibilité par rapport à leur importance réelle. Et donc du coup, on a écrit ce livre pour rappeler l'importance des combats tels que ceux de la justice sociale, et de la crise écologique notamment, et également l'accueil des personnes réfugiées, sans oublier la précarité, même si on n'en parle pas directement dans cet ouvrage, et avec l'originalité aussi de vouloir vraiment ancrer notre propos dans une réflexion aussi théologique, pour essayer de comprendre comment en fait justement le fait que nous ayons la foi chrétienne informe profondément cette façon qu'on peut avoir d'appréhender ces questions qui nous concernent à titre de citoyens et puis qui concernent aussi les autres citoyens qui ne sont pas forcément croyants.
Jean-Victor Elie, vous écrivez dans le livre, vous refusez de faire de la religion chrétienne une posture identitaire. Ce livre, c'est vraiment un plaidoyer pour aller de l'avant et aller dans le monde, y trouver les traces du Christ.
Oui, tout à fait. C'est un plaidoyer qui invite largement les chrétiens à l'action par l'engagement collectif et à se retrouver dans l'action, c'est-à-dire à se retrouver dans l'engagement. Et c'est en quelque sorte un retournement de perspective, c'est-à-dire que on ne considère pas que l'engagement est la conséquence seule de la foi, c'est-à-dire que voilà, on est chrétien et on reçoit cette foi de nos parents ou d'ailleurs, et ensuite on va aller s'engager parce que c'est notre foi qui nous guide. On pense aussi que l'engagement est le lieu de la foi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se vit dans l'engagement qui nous interpelle et qui peut nous déplacer très profondément sur notre propre vie de foi.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être là ce matin. Donc, un essai brillant à lire absolument. Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien, c'est aux éditions de l'Atelier. Il y a donc quatre personnes avec moi ce matin pour ce 17 octobre. Evelyne Dubois et Paul Maréchal d'Atelier Carmonde. Et puis, Pierre-Louis Choquet et Jean-Victor Elie. Et puis, bien sûr, il y a vous, chers auditeurs, de l'autre côté du poste, ou du smartphone, ou de l'ordinateur, ou de la tablette, ou de tout ce que vous voulez. Vous pouvez intervenir dans cette émission, mettre votre grain de sel, nous appeler au 04 72 38 20 23, ou nous écrire le temps de le dire, @rcf.fr. Catherine Ségouffin vous attend au standard.
Le temps de le dire. Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23.
Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot misère. On parlera ensuite du refus. Evelyne Dubois, la misère, la précarité, vous l'avez connue à un moment de votre vie. Je crois que c'était en 2004. Vous étiez une maman avec quatre enfants, deux petits-enfants. Et du jour au lendemain, vous êtes retrouvée à la rue.
Tout à fait.
Racontez-nous.
On s'est retrouvée à la rue en 2004 avec deux petits-enfants de... 6 mois et 2 ans pour une question de loyer, d'une dette de 150 euros de loyer.
Ouais. Donc quand on se retrouve à la rue, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, on essaye de se débrouiller parce que déjà, surtout avec des enfants, parce que pour leur scolarité, c'est pas évident.
Parce qu'il y avait des bébés, mais il y avait aussi une petite fille de 11 ans.
J'avais ma fille de 11 ans.
Donc là, on essaye de se débrouiller pour caser tout le monde, c'est ça ?
Ben, pour essayer de caser tout le monde et surtout de rester aussi en contact, parce que dans la pauvreté, la relation famille mère-enfant, c'est ce qui nous aide à tenir.
Votre petite fille de 11 ans, qui à l'époque avait 11 ans, vous m'avez dit, je voulais surtout pas qu'elle aille à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE.
Je voulais surtout pas la placer par l'ASE, parce que j'ai moi-même été placée à l'ASE, donc on sait quand on place, mais on ne sait pas quand on les récupère. Donc oui, j'ai procédé à un placement, mais avec son accord et chez des amis.
Ouais. Donc comme ça, elle pouvait rester dans le même établissement scolaire.
Comme ça, elle pouvait d'une part rester dans le même établissement scolaire et on pouvait se voir tous les jours s'il y avait le moindre problème.
Vous m'avez dit que c'était une sacrée épreuve pour votre fille.
Ça a été une épreuve où elle est passée directement du mode enfant au mode adulte en se forgeant une carapace qui a été très longue à briser.
Vous étiez une famille très unie. L'expérience de l'expulsion de votre logement a fait exploser votre famille.
Ça l'a fait complètement exploser, puisque bon, il y en a qui n'ont pas pu nous suivre, horaire des transports pour commencer leur travail. D'autres, l'hôtel avec deux chambres, ça revenait extrêmement cher. Et comme les chambres sont faites pour trois, il fallait plusieurs chambres.
Ouais. Ça a duré combien de temps tout ça ?
3 ans, 1 mois et 24 jours.
Vous savez précisément le nombre de jours que ça a duré ?
Quand on est à la rue, on compte les jours.
Qu'est-ce que vous gardez comme expérience, comme souvenir de cette expérience de la rue ?
Je retiens beaucoup qu'il faut regarder les personnes à la rue avec un autre regard. Simplement, déjà quand on voit un SDF, simplement lui dire bonjour, c'est lui donner du baume au cœur, parce qu'on est on est invisible, on ne voit pas.
Aujourd'hui, comment vous allez ?
Ça va.
Ça va. Vous avez quelques soucis de santé, si j'ai cru comprendre.
Oui, mais bon, ça n'a pas relation avec le problème à la rue.
Ouais. Et vous avez une maison ?
J'ai un logement depuis 2007. Et pour le moment, quand on a la maison, qu'on a payé les DF, tout ça, et qu'on a de quoi manger dans l'assiette, je peux pas dire que je suis riche, mais j'ai l'amour de la famille, c'est le principal.
La sortie de la rue, elle a correspondu avec votre rencontre avec ATD Carmonde ?
Oui, pratiquement.
Pratiquement ? C'est un ami, vous alliez voir à l'hôpital, c'est une belle histoire aussi. Hein.
C'est un ami qui était à l'hôpital, qui nous a fait connaître ATD Carmonde, qui nous a dit qu'il y avait ATD Carmonde, que j'ai contacté, j'ai regardé le numéro de soir, et quand j'ai contacté ATD Carmonde, cet ami est mort le lendemain.
Et à Tardis Carmont, ça vous a vraiment permis?
Permis déjà de retrouver la dignité. Et puis, qui m'a beaucoup aidée dans les démarches pour retrouver mon logement.
Qu'est-ce que ça veut dire, la dignité?
Bah, quand on est à la rue, on n'est plus rien. On n'a plus d'estime de soi. On est des loques.
Merci beaucoup, Evelyne Dubois, de venir nous donner ce témoignage fort. Alors, je vais me retourner vers les autres. C'est toujours un peu dur après vous. J'avais dit, je voudrais faire un petit tour pour que chacun nous puisse nous dire qu'est-ce que c'est que la misère. Le mot misère, vous le reprenez à votre compte pour cette période de votre vie? Ou c'est trop fort?
Pour ma vie, je dirais plus pauvreté.
Pauvreté plutôt que misère. Paul Maréchal, je rappelle, vous êtes volontaire permanent à ATD Carmonde. Ça veut dire quoi, ce mot misère, en 2017?
Ça me fait penser à plusieurs choses. Je pense à cet homme militant Carmonde de Belgique qui dit, face à tant de violences qu'on vit, on se met pas en colère. On se met pas en colère et c'est le silence. Et le silence, c'est comme la nuit. Et il dit, et pourtant, on aimerait voir le jour. Et je pense que cette misère, c'est qui écrase tant de gens, c'est énormément lié à cet écrasement de la dignité et de l'absence d'espoir. Beaucoup, beaucoup de familles qui sont en situation très dure nous disent au moins que nos enfants vivent pas ce qu'on a vécu. Et quand la misère est trop forte ou que l'extrême pauvreté est trop forte, en fait, c'est ça qu'on casse. C'est même l'espérance de pouvoir retrouver ses droits, voir sa dignité respectée dans un avenir prochain. Et je pense à cette femme au Guatemala. J'ai vécu 5 ans au Guatemala dans le cadre de la mission. On était engagé dans plusieurs bidonvilles et la décharge publique. Et elle avait deux de ses enfants, un de ses enfants qui était disparu, un autre qui était tombé dans une très grande violence. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je devais travailler très tôt. Soit on mangeait, soit j'étais avec mes enfants. Et ce que je trouve très violent dans l'extrême pauvreté, c'est aussi la culpabilité. Parce qu'en fait, elle se sentait coupable alors qu'en fait la société avait détruit ses enfants et c'est elle qui se sentait coupable. Je lui dis, mais c'est pas vous qui êtes responsable, enfin coupable de ça, c'est notre société qui, en l'occurrence là-bas, qui donne aucune option. Et cette absence d'espoir, cette absence de lumière qu'on aimerait voir au bout du tunnel, je trouve que c'est ça le plus dur. Et moi je pense beaucoup aux jeunes, aux jeunes qui aujourd'hui sentent une société qui a du... où ils n'arrivent plus à trouver leur place, où sortir avec un diplôme et un travail, ça devient de plus en plus dur. Et moi, l'image de la très grande pauvreté aujourd'hui, c'est comment on peut casser des jeunes et en même temps casser l'espoir que leurs parents mettent dans ces jeunes.
Je me tourne vers vous, Jean-Victor Hélie et Pierre-Louis Choquet. Alors, vous êtes extérieur au mouvement ATD Carmonde, en même temps, j'imagine que comme tout le monde... Plus précisément vous qui appelez à l'engagement, vous êtes frappé par la misère et puis la pauvreté qui s'accroît dans notre pays. Jean-Victor Hélie, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce mot misère?
Alors pour moi, la misère, il y a des images d'abord qui m'apparaissent, qui sont proches ou lointaines. Et, donc, et puis des expériences que j'ai pu avoir personnellement. À travers par exemple les maraudes, puisque j'ai eu l'occasion de passer du temps avec la conférence Saint-Vincent de Paul pour faire des maraudes, c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes de la rue et passer du temps gratuitement avec eux. Mais ce qui me marque là quand je pense spontanément à la misère, c'est cet effet que ça provoque sur moi et j'imagine qu'on peut généraliser un petit peu cette expérience, qui est de me renvoyer à des questions d'emblée très existentielles, c'est-à-dire de me sortir un petit peu de mon habitude, parce que sans doute qu'on ne peut pas s'habituer à la misère et qu'il y a quelque chose de profondément choquant, de révoltant, parce que précisément il y a une dignité qui est enlevée, comme vous disiez Evelyne, et que voilà, c'est quelque chose qui va toujours faire réveiller quelque chose en moi qui est de l'ordre de la révolte et précisément du désir de m'engager.
Pierre-Louis Choquet, et vous?
Je dirais que moi j'ai une expérience indirecte aussi de la misère puisque je viens d'un milieu relativement privilégié, mais j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de réfugiés et de demandeurs d'asile par l'intermédiaire de l'association Jesuit Refugee Service, donc le service jésuite des réfugiés, qui est une ONG présente dans beaucoup de pays dans le monde, mais particulièrement en France. Et je pense que, alors je sais pas si eux-mêmes le définiraient comme de la misère, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes hommes, du coup, qui étaient dans des parcours de migration, et qui demandaient l'asile politique en France, et qui étaient vraiment dans des situations de très grande solitude et une très très grande solitude, et je pense aussi d'une forme de souffrance psychique qui peut à peine être formulée tellement elle est difficile. C'est des personnes souvent qui ont tout quitté, qui ont plus de lien direct avec leur famille, qui ont traversé la Méditerranée, alors quand elles viennent d'Afrique subsaharienne, et donc du coup des traumatismes en fait qui leur reviennent. Moi j'ai déjà discuté avec des personnes dont on sent qu'il y a des choses qui sont très vives. Et puis aussi, enfin là je très concrètement en fait, qui sont d'une part confrontés à la solitude de leur propre situation, et qui doivent aussi se battre, c'est-à-dire avec l'administration pour des questions de papier qui sont très très compliquées en fait, et parfois même presque kafkaïennes quand il s'agit de voilà, ils ont posé leurs empreintes dans un autre pays et du coup leurs aides sociales sont coupées, etc. Enfin c'est des questions qu'on a du mal à imaginer. Et en fait je pense qu'il y a une dimension de la misère qui est ce sentiment d'être rejeté aussi mais vraiment là très directement par les institutions d'un pays, et d'être voilà, de n'avoir plus de lieu, plus de foyer précisément, ou de lieu géographique auquel on se sent à l'intérieur duquel on peut habiter.
J'ai entendu le mot révolte, c'était dans la bouche de Jean-Victor Hélie. Le mot colère, c'était dans la bouche de Paul Maréchal. Evelyne, vous avez déjà été en colère ou quand on est dans la difficulté, c'est trop compliqué d'être en colère. On est trop fatigué.
On n'est pas en colère, on est révolté.
On est révolté. Et ça se traduit comment ? On en veut à la terre entière ou
On en veut à la terre entière, mais en s'en voulant aussi à soi-même, puisque de toute façon, toute personne à la rue pense que c'est sa faute.
Et ça, c'est ce que disait Paul Maréchal, c'est tout le travail de faire comprendre que la responsabilité vient de la société et pas
de la société et des institutions.
Aujourd'hui, c'est le 17 octobre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Evelyne Dubois, ce 17 octobre ?
Pour moi, ça représente beaucoup de choses parce que, en fait, la France, comme beaucoup de pays où la misère est très, très forte, c'est pour essayer de faire comprendre aux politiques qu'il faut investir,
Il faut s'engager, il faut mettre du budget. Mais c'est pas que de l'argent, si c'est...
Pas de l'argent direct aux pauvres, mais pour qu'ils aient le droit à la culture, à l'éducation, au logement, au travail. Et faire comprendre aux gens qu'un pauvre, c'est pas une bête féroce. Leur faire changer le regard.
Ce matin, il y avait Bruno Dabou sur RCF, qui est délégué général adjoint à TD Carmonde International. Et il disait, il faut plus avoir peur des pauvres. Vous avez le sentiment qu'on a eu peur de vous à un moment ?
De toute façon, même encore maintenant, les gens ont peur des pauvres. Ils passent vers eux comme si c'était une bête pestiférée.
Est-ce que le 17 octobre, c'est une fête aussi ? Non ?
C'est une fête, oui, dans le sens où les pauvres, ils ont la parole. Ils expriment ce qu'ils ont à dire.
Pierre-Louis Choquet ? Cette date du 17 octobre, avant de préparer l'émission, c'était une date que vous connaissiez, pour laquelle vous aviez un attachement particulier ou pas plus que ça ?
Je l'ai découverte hier en lisant des articles.
C'est vrai, c'est possible ça, être autant engagé et ne pas connaître le 17 octobre.
Mais voilà, maintenant je la connais.
Voilà. Bon, et vous, Jean-Victor Hélie ?
Je la connaissais pas non plus, mais j'y ai beaucoup pensé et je pense que c'est une vraie occasion pour des personnes, simplement de se poser la question, voilà, sur mon chemin qui me mène à mon lieu de travail ou à mon école, est-ce que je peux aujourd'hui être particulièrement attentif à la misère que je rencontre forcément, quoi.
Paul Maréchal, il y a encore du boulot, dis donc, pour faire connaître ce 17 octobre. Maintenant, c'est une journée mondiale, c'est fêté c'est une date officielle pour l'ONU, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, elle a été initialisée en 87, sur le parvis des droits de l'homme et des libertés.
100 000 personnes au Trocadéro en 1987.
Hein. Et officialisée
par... Vous étiez pas né, mais bon.
Et officialisée par l'ONU en 92, et c'est l'une des rares journées, peut-être même la seule, qui est née d'une initiative et qui a été décrétée ensuite par l'ONU, et donc qui vient en fait des personnes elles-mêmes qui ont initié ça. Je pensais à ça, il y a du boulot, vous dites. Effectivement, il y a du boulot, et effectivement, et c'est pas seulement sur le chemin de son travail. J'allais dire, c'est aussi dans son travail, dans son métier, dans sa culture. L'un des engagements très importants à TD Carmonde, c'est ce qu'on appelle les alliés, qui font une alliance entre la société et les gens qui sont dans l'exclusion. Et le premier boulot au sein d'ATD Carmonde, c'est d'être un citoyen engagé en tant que médecin, en tant que prof, en tant qu'avocat, en tant que journaliste, en disant mais qu'est-ce que je peux changer moi à mon niveau pour changer le regard, pour qu'on ait plus peur des gens très pauvres, mais aussi pour que la société bouge. Et c'est des millions de personnes qui se bougent de manière parfois très très discrète, mais qui font changer les choses. Donc il y a le politique qui peut voter une loi comme la CMU qui a été gagnée grâce à des travaux qui ont été faits à TD Quart-Monde il y a longtemps. Mais après, il y a toute la mise en œuvre de ça qui dépend des citoyens. Et c'est, le boulot, il est là.
Eh ben, on va continuer à en parler de cet engagement contre la pauvreté en France et dans le monde à l'occasion de ce 17 octobre. Donc maintenant, chers auditeurs, vous le savez tous, vous n'avez plus d'excuses. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Je vois que j'ai un message d'André qui est à Bruxelles. Je lirai dans quelques instants. Vous aussi, vous n'hésitez pas à prendre part à cette émission, à témoigner de votre engagement ou de vos difficultés au 04 72 38 20 23 ou par mail. Le temps de le dire, @rcf.fr.
9h-10h, le temps de le dire sur RCF. Tous les mardis après-midi, avec Gérard Bloch, la musique est au top. Dans Tube, légende et collector, l'actualité musicale croise l'histoire des hit parades et vous emmène à la découverte des morceaux qui ont marqué leur époque. Tube, légende et collector, tous les mardis, en direct à 16h30. Halte spirituelle, proposée par Véronique Alzieux.
Comme chaque année, RCF est partenaire de la Semaine missionnaire mondiale, proposée par les œuvres pontificales missionnaires. À cette occasion, avec mon invité Pierre Diarra, nous réfléchirons au sens de la mission aujourd'hui, dans Halte spirituelle tous les jours, à 15h et 20h45.
C'est RCF. Le temps de le dire, nous sommes ensemble ce matin à l'occasion de ce 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. J'en profite pour vous dire que tout à l'heure, à 17h, soyez à l'écoute de RCF, Christophe Héningle et l'émission Grand Angle. Il sera en direct depuis le Trocadéro, l'Esplanade des droits de l'homme, pour une belle émission consacrée à cette journée. Pas tout à fait comme les autres, mes invités, ils sont toujours autour de la table. Il y a Evelyne Dubois et Paul Maréchal d'ATD Quart-Monde, et puis il y a Pierre-Louis Choquet et Jean-Victor Elie, deux des auteurs de ce livre « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien ». C'est aux éditions de l'Atelier. On prend la parole tout de suite, donne la parole tout de suite à un auditeur, Daniel, qui nous appelle du Pas-de-Calais au 04 72 38 20 23. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, ben, je me permettais de vous interpeller parce que moi-même, je me suis investi dans la défense des personnes qui étaient en détresse sociale, même plus que ça, en exclusion sociale. Si je vous disais que mon investissement était tellement dérangeant que je me retrouve à la rue, parce que j'ai travaillé sur tout ce qui était expulsion. Il faut savoir que dans le Pas-de-Calais, les expulsions sont illégales, avec un recours à la force publique illégal, parce que, comme dans le dossier de la dame qui est intervenue, je pourrais... Si je voyais ce dossier, je suis sûr que ne sont pas mentionnées les conditions mises en place de dossier FSL qui peut prendre en charge les dettes de loyer, donc qui est intéressant que ce soit pour le bailleur et pour les personnes qui ont du mal à payer le loyer. C'est une clause de nullité de commandement. Qui dit nullité de commandement dit nullité de procédure. Dans mon cas, actuellement, je me suis retrouvé à la rue parce que j'ai défendu des dossiers de certaines personnes. On a fait en sorte que je me retrouve sans rien parce que je travaille sur tout ce qui est pratique sociale. Et toutes les autres pratiques, que ce soit le RSA, le RMI, sont irrespectueuses de la dignité humaine. On pratique une domination sur le public, ils n'ont pas accès à la règle. On les oriente vers des associations conventionnées dans le Pas-de-Calais au détriment. Là, juste maintenant, ils viennent de changer, où ils respectent la double orientation pour l'emploi. Donc, quand c'est orienté vers des associations conventionnées...
Oui. Daniel, je vais vous demander de conclure votre témoignage. Qu'est-ce que vous voudriez dire comme message fort aux auditeurs ce matin?
Un message fort, là, vous avez quelqu'un qui a travaillé sur un livre. Moi, je suis à sa disposition. L'association que j'ai mise en place s'appelle Eden France. Je suis à sa disposition pour travailler sur du concret. Et il faut absolument analyser la pratique du début à la fin pour empêcher que des gens contournent la loi juste pour des intérêts personnels. Et malheureusement, la misère, elle engendre des intérêts personnels et on ne veut pas respecter certaines lois. Et on ne les respecte pas. Comment voulez-vous que ces gens-là croient en quoi que ce soit après ?
Merci beaucoup Daniel pour votre témoignage. Peut-être Paul Maréchal que vous pouvez réagir. Il nous a dit pas mal de choses assez fortes. Il nous dit les expulsions, elles sont illégales. La plupart du temps, c'est le cas.
Oui, tout à fait. En fait, pour lutter contre l'extrême pauvreté, on a vraiment besoin de marcher sur les deux pieds. Un pied, c'est le droit, le respect des droits, le respect de la loi. On gagne parfois des lois.
La générosité, comme, ça suffit pas. Hein.
Voilà, comme le loi au logement opposable, DALO, qui a beaucoup de mal à se mettre en œuvre, etc., mais qui est une avancée, ou la couverture maladie universelle, je l'ai évoqué. Donc c'est le pied du droit. Et puis, l'autre pied, c'est l'engagement et le fait que cette loi soit mise en œuvre au quotidien par les gens. Et on a vu des médecins, malheureusement, il y en a heureusement peu, qui refusent des patients qui sont bénéficiaires de la CMU. Mmh. On voit des endroits où le droit au logement opposable n'est pas respecté. Et ce monsieur donnait un autre exemple où la procédure n'est pas respectée. Et donc, ça se construit avec des droits qu'il faut absolument défendre, et ça se construit avec un engagement citoyen de faire respecter ces droits, de changer le regard sur les gens et de faire qu'ils soient considérés comme tout le monde, pas comme bénéficiaires de bienfaisance, comme vous dites, mais comme des gens qui ont les mêmes droits que tout le monde et qui peuvent y accéder normalement.
Évelyne Dubois, le fait de ne pas être respectée dans ses droits, vous l'avez ressenti, ça? Et aujourd'hui, quand vous accompagnez d'autres personnes, vous le ressentez?
Alors, on le ressent, mais il y a aussi la part de l'expulsé lui-même. Parce que la plupart du temps, comme c'est une honte d'être expulsé, on n'en parle pas.
Il faut arrêter d'avoir honte.
Aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir honte. Il faut en parler avant que ce soit trop tard. Tel a été mon cas.
Et aujourd'hui, vous accompagnez une jeune fille, je crois?
Alors, j'ai accompagné une jeune fille qui s'est retrouvée à la rue, que j'ai hébergée. Et je l'ai aidée dans ses démarches de logement. Ça a demandé 7 mois. Mais aujourd'hui, elle a son chez-soi avec ses enfants.
Donc, il y a des victoires qui sont possibles?
Il y a des victoires parce que quand on a été à la rue, on a quand même des capacités qu'on peut montrer aux institutions, aux sociétés, à tout le monde. Il faut pas prendre les pauvres pour des nuls.
Et vous, quand vous allez dans les institutions pour accompagner cette jeune femme, vous êtes prise au sérieux?
Ah, tout à fait.
Tout à fait. C'est bien ça. Pierre Luchoquet, comment est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, on s'engage contre la pauvreté en France en 2017?
Il n'y a pas une seule réponse. J'imagine qu'en fonction des sensibilités et des lieux où on est rattaché, on peut trouver des engagements très multiples. En ce qui me concerne, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, j'ai été plus proche pendant longtemps du milieu des réfugiés, où il y a quand même une grande misère qui est un peu différente de la grande pauvreté des personnes qui sont en France depuis plus longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, il y a aussi notamment la barrière de la langue qui est vraiment problématique pour ces personnes. Mais je dirais que, très concrètement, il y a quand même beaucoup de réfugiés qui sont déjà en France, qui sont un peu dispatchés sur tout le territoire, notamment dans les villes préfectures, et que souvent, ces personnes sont confrontées à une grande solitude, alors qu'il y a des associations, moi j'ai fait par exemple des conversations en français, alors je suis pas professeur de français langue étrangère, mais souvent les réfugiés ont quand même accès à des cours de français langue étrangère qui sont en fonction aussi des bénévoles qui sont prêts à les donner. Donc souvent il y a beaucoup d'effectifs par classe. Mais moi je faisais du coup de la conversation avec des petits groupes. Ça permettait, moi je peux pas enseigner la grammaire, mais de faire de la conversation et puis de les corriger.
Un accompagnement amical.
Voilà, c'est ça, un accompagnement amical, etc. Et je pense qu'il faut pas du tout voir ça comme une concurrence avec la question d'aider les plus démunis. Parce que ces personnes-là qui reçoivent, en fait, pour certaines, ont beaucoup de gratitude à recevoir l'aide dans leur parcours d'intégration, peuvent en retour être très aidantes aussi une fois qu'elles ont accompli leur parcours, obtenu leurs papiers, etc. Et j'ai déjà été témoin de très belles histoires où des personnes qui viennent de pays très lointains et qui réussissent à s'intégrer en France continuent en fait finalement à s'engager, peut-être à la limite plus que des citoyens qui sont en France depuis longtemps et pour qui il y a ces mondes invisibles qui n'apparaissent pas, celui de la grande pauvreté par exemple. Et j'étais témoin plusieurs fois de personnes qui viennent de pays avec d'autres cultures, notamment un autre rapport aux personnes âgées, notamment faire preuve d'une grande simplicité, d'une grande délicatesse dans le rapport avec des personnes âgées en France et nouer des liens que même les Français, on a parfois du mal à montrer spontanément
Ce que vous dites, c'est que la générosité génère de la générosité?
Probablement, et pas. Alors c'est un travail de fond, ce n'est pas non plus très facile. Et je pense que là, sur ce point, probablement que ça recouperait ce que disait Evelyne, c'est que le pape François, en parlant des migrants il y a quelques mois, disait « la rencontre avec les migrants dissipe toutes les idéologies ». Donc en fait, on se rend compte que quand on fait face à une personne, qu'elle soit dans une grande précarité économique ou qu'elle soit réfugiée, etc., soudain, en fait, toutes les idées construites qu'on a, qui sont véhiculées un peu dans les imaginaires, se dissipent. Et on est soudain face à une personne, en fait. Et puis la question, c'est plus de savoir si on est pour ou contre, ou si c'est bien, si c'est mal, etc. Mais juste, on se sent obligé on est appelé, en tout cas, à entrer en relation et à lancer quelque chose pour que ça avance.
Paul Maréchal, rencontrer la personne, ça fait tomber les clichés. C'est un peu le message d'ATD Quart Monde avec le slogan « Stop pauvreté ».
Ah oui, tout à fait. Le mouvement ATD Quart Monde se définit vraiment comme un mouvement de la rencontre. Parce que c'est par le dialogue et par le fait d'être ensemble qu'on se sent plus fort et qu'on change. Je pense beaucoup aussi à une autre femme du Guatemala qui disait « Ma vie a changé avec ATD parce que maintenant j'ai plus peur d'aller rencontrer le prof de mes enfants, j'ai plus honte d'aller rencontrer le médecin du centre de santé. » Donc la rencontre, elle fait effectivement tomber complètement les clichés, comme vous disiez, et elle permet aussi de rentrer dans une compréhension et de se laisser transformer. Quoi.
Et Evelyne Dubois, vous vous sentez en lien avec cette femme du Guatemala qui évoquait Paul Maréchal, avec toutes les personnes en précarité à travers le monde? Vous vous sentez proche d'elle par l'expérience que vous avez traversée?
Ah bah tout à fait. De toute façon, tous les pauvres, c'est des citoyens à part entière. Donc les idées fausses, c'est là qu'on voit qu'elles sont fausses.
Jean-Victor Elie, pour vous, pourquoi est-ce qu'il faut s'engager aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut s'engager contre la pauvreté?
Moi, je suis très sensible à ce que disaient Pierre-Louis et Paul sur la rencontre. Parce que je pense qu'en effet, un effort qu'on doit faire dans notre société, c'est de montrer des visages et raconter des histoires, que ce soit pour les réfugiés ou pour des personnes qui sont dans la rue ou qui traversent d'autres types de misère. Et que c'est ça qui va sans doute nous sortir des préjugés, nous sortir des images que nous nous faisons à force de rester dans un entre-soi, etc. Et voilà, moi je pense que... Et puis, quelque chose... Autre chose qui était intéressant que disait Paul, c'est que, en effet, on a à agir sur nos lieux de travail, quels qu'ils soient, et qu'il faut aussi peut-être sortir d'une image prédéfinie de ce que va être l'engagement pour la misère. C'est-à-dire qu'en réalité...
Il est multiple, comme
il est multiple.
Pierre-Louis qui disait ça, oui.
Exactement. Et moi, par exemple, je pense à un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach. Et en regardant ce film, je me dis, ben, voilà, là, il y a une image qui est donnée et qui est diffusée largement dans le monde, parce que c'est un film qui a eu la Palme d'Or sur la misère. Et ce cinéaste s'engage vraiment à sa mesure, là où il est, dans son métier, pour parler de la misère et puis pour nous inviter à nous engager.
L'empathie, c'est essentiel?
Je pense que l'empathie est tout à fait importante, oui, dans la mesure où, et en effet, quand on pense à ce film, il y a quelque chose de l'émotion qui est très forte. C'est-à-dire que, voilà, il y a les ressorts cinématographiques qui entrent en jeu. En particulier, moi, je me rappelle d'une scène, donc c'est une des personnages du film qui se retrouve à Newcastle, donc très très loin de son emploi. Donc elle perd son emploi, elle a deux enfants. Et en réalité, elle va avoir beaucoup de difficultés à toucher les allocations chômage pour beaucoup de raisons. Et à un moment donné, elle se retrouve dans la banque alimentaire et elle s'effondre complètement. Et là, on sentait dans les salles de cinéma et en sortant du cinéma aussi les personnes qui étaient touchées par ce moment-là. Même si, voilà, ça ne doit pas rester que de l'ordre de l'émotion et d'une forme d'émotion assez distante. Mais sans doute que ça peut être un ressort.
Ça fait possible des ressorts de l'engagement. Oui, Paul Maréchal.
Vous parliez de l'empathie, ça me fait penser à cet homme justement de Belgique qui disait, en fait, la paix, tu l'auras quand tu te rendras compte que celui qui est en face de toi, c'est la même chose que toi. Et l'empathie, je suis pas sûr, mais ça veut dire se mettre à la position de l'autre, si je ne m'abuse. Et c'est exactement ça. Te rendre compte que celui qui est en face de toi, c'est la même chose que toi. Ça change par la rencontre, ça change complètement le regard et la manière de vivre, et ça nous touche évidemment à l'égale dignité de tous les êtres humains.
Jean-Victor Hilly, vous disiez tout à l'heure l'importance d'avoir des visages et pas de parler de choses en général. Il y a André qui est à Bruxelles qui nous a écrit pour nous dire que aujourd'hui à Bruxelles démarre une marche pour rendre visible l'invisible, une invitation à la mobilisation pour la Journée mondiale de la pauvreté. C'est une marche à travers Bruxelles et il nous dit rendre visible l'invisible, c'est bien entendu rendre un peu justice à celles et à ceux qui sans papier, sans abri, sans emploi disparaissent petit à petit des radars sociaux. Ça se passe aujourd'hui à Bruxelles. On va écouter un peu de musique. C'est un morceau qui a été composé par c'est un groupe qui s'appelle Playing for Change pour ATD Quart Monde. C'est une reprise de Ben Harper. Vous allez voir, c'est très très chouette.
change the world with my own two hands. Make a better place with my own two hands. Make a kinder place with my own two hands. With my own two hands.
Mais demain, c'est une reprise de Bon Harper qu'on doit au collectif Playing for Change. Et ça, c'est une aventure datée des Quarts-Mondes, Paul Maréchal.
Oui, c'est ça. Playing for Change a un principe de faire enregistrer des morceaux de musique par des musiciens à travers le monde et qui jouent sur le même morceau et qui ensuite forment un clip global. Et ici, ils ont enregistré avec des personnes qu'on connaît qui sont très engagées contre la grande pauvreté et qui ont, pour la majorité, une vie aussi très dure, en Haïti, au Burkina, aux États-Unis, etc. Et donc, et ça permet d'unir ces voix, justement, unissons nos voix contre la grande pauvreté pour susciter l'engagement, pour toucher des personnes qui sont pas forcément sensibles ou qui connaissent pas forcément ces formes d'engagement. Et c'est des grandes aventures parce que c'est souvent des artistes fabuleux et assez méconnus et qui tout d'un coup ont une visibilité et voient leur savoir reconnu. Et ça a été une belle aventure humaine ce clip-là.
On prend Hubert qui nous appelle depuis Grenoble. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour. Eh ben bonjour à tous. Alors voilà, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire de l'escalade en montagne et d'être encordé au cours d'une escalade. Or, dans le discours de M. Macron, il comparait la société à une cordée, où le premier de cordée, bah, il fait son boulot, et ceux qui sont derrière, s'ils lui jettent des pierres, ça n'ira pas. Vous l'avez peut-être entendu, ça.
Oui. Alors, bon. Qu'est-ce que ça évoque pour
vous ? Alors, si le premier de cordée ne fait pas attention à ceux qui sont derrière, ça va pas non plus.
On est bien d'accord.
En plus, dans la cordée, il risque d'y avoir une personne plus faible que les autres. Tout le monde doit faire attention à lui.
Merci beaucoup, Hubert, pour avoir filé la métaphore du président de la République. Pierre-Louis Choquet, une réaction ?
Oui, bah alors c'est vrai que dans son discours qu'il a donné à TF1, le président a beaucoup insisté sur l'initiative individuelle, sur la performance, etc. C'est quand même paradoxal, c'est que il y a quelques jours, je pense pas que c'est le 17 octobre, mais c'est peut-être le 16 octobre, le Fonds monétaire international a publié un rapport pour dire que justement, en montrant que les inégalités nuisait en fait à la stabilité sociale et tout simplement à au bien-être d'une société. Donc quand on voit que les institutions les plus conservatrices et les plus
libérales
de la planète plaident à l'encontre d'Emmanuel Macron, c'est quand même assez drôle. Et je pense que c'est un des arguments qu'on a voulu vraiment défendre dans le livre qu'on a écrit avec Jean-Victor Elly et Anne Guillard, c'est de dire que en fait, ce qu'il faut vraiment, ce qui est relativement invisible aujourd'hui, mais qu'il faut apprendre à redécouvrir, c'est que nous vivons dans une société où nous sommes tous dépendants les uns des autres. Nous sommes tous, nous sommes partis vraiment d'un même tissu social. Et que on peut pas vraiment espérer construire un monde juste et durable si certains gagnent 5000 fois plus en haut de l'échelle de distribution des revenus que ceux qui sont tout en bas. Et bon, il n'y a pas qu'une question quantitative de distribution des inégalités, parce que comme l'a montré Paul et comme l'a dit Evelyne, il y a vraiment un enjeu aussi de relations et de capacité à créer du lien. Mais plus il y a des inégalités, plus on sait que c'est difficile pour des personnes qui ont des revenus très très déconnectés de rentrer en relation et de créer en fait une société où tout le monde, où nous sommes tous des égaux les uns vis-à-vis des autres.
Alors, il y a un message, un mail de Claire qui est à Paris. Bonjour à vos invités. Est-il possible de lutter contre la misère sans violence contre les personnes qui la génèrent? Et par les personnes, elle pense aux institutions publiques et privées. Alors, est-ce que on peut lutter contre la misère sans lutter contre, c'est un peu ce que vous disiez, Pierre-Louis Choquet, contre l'organisation de notre société? Qu'est-ce qu'il veut répondre, Jean-Victor Elly?
Je pense qu'il y a plusieurs leviers d'action en réalité, c'est-à-dire qu'on peut s'engager pour lutter sur les formes du droit et ça peut prendre des formes tout à fait non violentes. Et par exemple, se saisir d'un projet de loi qu'on juge injuste et s'y engager et manifester, ça peut être une forme assez décisive. Être dans la rue, occuper l'espace de la rue pour affirmer une forme de révolte vis-à-vis de la misère comme il se passe aujourd'hui, c'est des manières de lutter, de rendre visible l'invisible sans être dans la violence.
Paul Maréchal.
La violence, c'est une grosse question et pour nous, enfin, les plus pauvres, ils la vivent cette violence tous les jours pour la subir de la société, etc. Et comme disait Evelyne tout à l'heure et comme disait cet homme, en fait, la violence, elle se retourne toujours contre les plus pauvres. Les révolutions ont jamais changé la situation de vie des plus pauvres. C'est d'autres plus forts.
En fait, le centenaire de la révolution de 17, vous n'êtes pas révolutionnaire chez Athénée Carmonde.
Voilà, c'est ça. Parce qu'elle elle se retourne toujours contre les plus pauvres qui, au final, subissent la violence que leur impose tel ou tel clan.
Mais parfois, on n'a pas eu envie de mettre tout à plat.
Voilà, mais tout à plat, c'est, la résistance, oui, le refus d'une société qui écrase les gens, oui, mais on sait que la violence n'est pas une arme parce qu'elle se retourne contre les gens, mais une lutte, ça peut être très fort aussi quand on veut gagner quelque chose, quand on refuse une injustice, c'est dur, mais malheureusement, toute notre expérience nous montre que la première des violences, c'est de réussir à rompre le silence. La première des refus, c'est de réussir à rompre le silence, de bâtir la paix et de faire bouger la société et de jamais rien lâcher, ça c'est sûr. Mais la violence en tant que telle se retourne toujours contre les très pauvres.
Je vais vous lire un mail, c'est Annick qui nous écrit. Elle nous dit « Je vis depuis 10 ans, par choix, dans un quartier populaire. J'ai découvert les différentes formes de pauvreté des gens qui m'entourent. La pauvreté sociale entraîne d'autres formes de pauvreté, comme le repli sur soi, difficile à vaincre. Les aides sociales ne suffisent pas. Il y a tout un travail à faire. La mise en lien qui fait sortir de la solitude et de l'exclusion. L'accompagnement pour désirer apprendre et se cultiver. L'aide à devenir responsable de sa vie et non pas baisser les bras, un travail de longue haleine. Evelyne Dubois, vous êtes d'accord, les aides sociales, ça ne suffit pas?
Les aides sociales et les aides alimentaires ne suffisent pas. Il faut être plusieurs. C'est ensemble qu'on peut arriver à quelque chose.
On a besoin de fraternité?
Ah, tout à fait.
Pour s'engager, il faut sentir qu'on est soutenu?
Faut sentir qu'on est soutenu et qu'on ne se sente pas seul, surtout.
Jean-Victor Elly, sur quoi vous fondez votre engagement à aller au-delà de votre petit confort personnel? Vous signez avec Pierre-Louis Choquet et Anne Guillard ce livre, un plaidoyer pour un envol à l'engagement chrétien. L'engagement, c'est dans l'ADN des chrétiens?
Oui, je pense que l'engagement, c'est dans l'ADN des chrétiens. C'est puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est l'engagement comme lieu de la rencontre, c'est le lieu où, où notre foi se travaille, où notre foi grandit chacun personnellement, et où on va pouvoir aller plus loin. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a une urgence de l'engagement parce que il y a des sujets massifs comme la crise écologique, la crise des migrants, qui demandent que tout le monde se retrousse les manches et tout le monde agisse ensemble.
Pierre Luchoquet.
Bah oui, c'est exactement ce que disait Evelyne. En fait, dans le christianisme et la vision, on va dire, de la fin des temps, si je puis dire, dont Jésus parle souvent quand il parle du royaume de Dieu dans l'Évangile, c'est pas chacun tout seul devant Dieu le Père, en quelque sorte. Il y a vraiment l'idée que on avance ensemble. Enfin, c'est exactement ce que disait Evelyne, et qu'il y a l'idée d'un salut collectif, en fait, tout simplement, et que le salut, on l'obtient simplement dans la réalisation pleine de nos relations avec les autres, qui déjà préfigurent le royaume de Dieu. Donc il y a vraiment l'idée de, effectivement, si on distribue des aides sociales aux uns aux autres pour que chacun dans leur coin ils fassent comme on leur semble, on a vraiment loupé quelque chose d'essentiel dans notre vie de croyants et de chrétiens engagés, qui est de construire des relations, et des relations vivifiantes qui fassent grandir à la fois les accueillants et les accueillis.
Il s'agit de faire société.
Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais ça serait encore un petit peu probablement faible. Mais alors, faire société, on pourrait dire ça dans un contexte non religieux, par exemple, ou avec des citoyens.
Alors,
mais
construire la fraternité, ça,
voilà, construire la fraternité, même avoir partagé ensemble une vision de ce qui nous unit au-delà du temps qui passe, quoi. Enfin, voilà.
Paul Maréchal, qu'est-ce qui est à l'origine de votre engagement pour Atelier Carmonde, et qu'est-ce qui, au fil des années, puisque ça fait 18 ans que vous êtes volontaire, vous pousse à continuer?
C'est difficile de répondre en deux minutes, mais la première chose, c'était moi je me dis, mais c'est pas possible de tolérer un monde comme ça. Pour reprendre une image chrétienne, l'homme est à l'image de Dieu, et cette image aujourd'hui, elle est bafouée, elle est abîmée, parce que l'homme est abîmé, et la grande pauvreté est vraiment quelque chose qui détruit. C'est une forme presque de torture qu'on fait subir aux gens. Et c'est juste un moment où je me suis dit, mais quand j'aurai 70 ans ou 80 ans, qu'est-ce que j'ai envie de voir derrière ma vie? J'ai envie qu'elle ait servi à quelque chose. Et donc, au moins, essayer de peser dans la balance du bon côté. Donc ça a été un peu intellectuel. Après, j'ai découvert Atelier Carmonde avec cette idée incroyable de dire, mais si on veut lutter contre la pauvreté, la première chose à faire, c'est demander l'avis et la participation des gens très pauvres, parce qu'eux, ils savent ce que c'est. Tous les jours, ils luttent contre la pauvreté. Et puis après, ça a été évidemment cette rencontre qui a fait que je suis là aujourd'hui. Une démarche d'abord peut-être personnelle et intellectuelle, mais d'abord ensuite la rencontre de gens qui luttent tous les jours et qui se disent « on va changer les choses et on va y arriver ».
Et Evelyne Dubois, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs pour qu'eux aussi s'engagent contre la pauvreté? C'est une question compliquée là. Pourquoi vous vous engagez contre la pauvreté? Parce que vous l'avez vécu, mais au-delà?
Parce que je l'ai vécu et que Les pauvres n'ont pas souvent la parole, donc je m'engage justement pour qu'ils parlent et qu'ils nous donnent des clés. Parce que sans clés, on ne peut rien faire.
Merci beaucoup, Evelyne Dubois, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné quelques clés et de nous demander de nous mettre à l'écoute des plus pauvres pour lutter contre la grande pauvreté et la misère aujourd'hui. Merci, Paul Maréchal, d'être venu nous témoigner aussi de votre expérience à la Télé Carmonde. Et puis, Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor, Élie, je pense que les auditeurs ont compris. Pour fonder leur engagement, ils peuvent lire avec profit ce livre, Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien. C'est publié aux éditions de l'Atelier. Demain, dans cette émission, nous parlerons de la question de la fin dans le monde, 10 ans après les émeutes de la faim. Où en sommes-nous? Nous recevrons le CCFD Terre Solidaire, entre autres, pour nous parler de cette situation et faire un état des lieux. Bérangère Loup,
oui.
Ce matin, dans À votre service, comment consommer moins et mieux, c'est
ça? Ah oui, c'est intéressant. Oui, la surconsommation, qu'est-ce qu'on fait alors? Alimentation, produits d'hygiène, de beauté, vêtements, accessoires, déco, high-tech, loisirs. La surconsommation régit un peu notre société. La publicité, le marketing nous pousse aussi à vouloir posséder ce que nous n'avons pas encore, et peut-être d'ailleurs même ce que nous n'avons pas forcément besoin. Ce qui n'est pas sans conséquence sur notre planète, bien sûr, sur les animaux, et même sur notre bien-être collectif et personnel. Comment consommer moins comment consommer mieux, différemment aussi. Oui, vous consommez, vous surconsommez, vous, Stéphanie Gallet ?
Comme tout le monde, comme tout le monde. J'essaye, mais c'est difficile.
Eh bien, écoutez à votre service, parce que vous verrez qu'on a des solutions pour vous. Comment faire, justement, pour mieux consommer ? Je compte évidemment sur vos réactions, sur vos appels. Et puis, je rappelle que l'émission de Stéphanie Gallet, Le Temps de le dire, se réécoute immédiatement sur notre site internet rcf.fr. Merci Stéphanie, à demain. Je compte sur vous, hein. Je vous attends au 04 72 38 20 23. À tout de suite.